Vous êtes bien sûr sur le 107.9 à Château-Gontier et le 101.7 à Laval.
Alors bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur l'autre radio, bienvenue en direct ou en podcast à l'émission L'Instant Jeune, une émission du réseau Information Jeunesse de la Mayenne. Je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne année 2021 que j'espère pleine de liberté. Et pour commencer sereinement l'année, nous allons parler d'orientation ce soir. Donc sujet un peu tendu pour les étudiants qui nous écoutent puisque c'est quand même un sujet assez stressant. On en parle souvent, que ce soit à l'école ou en famille. Donc on va essayer ce soir de vous éclairer un petit peu à ce sujet-là. Donc, je suis actuellement avec Laurence du Centre Information Jeunesse de Laval, également en présence de Nadine Gendrobert du CIO de Mayenne et avec Florian Darras de l'association de la Mayenne aux grandes écoles. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, Nadine, est-ce que c'est possible de présenter le CIO à nos auditeurs et auditrices ?
Oui, bien sûr. Donc, le CIO, ça signifie Centre d'information et d'orientation. Il y a deux CIO en Mayenne, le CIO qui sont à Laval, le CIO Mayenne Nord et Mayenne Sud, avec deux antennes, on va dire, l'une à Mayenne et l'autre à Château-Gontier. Donc, on y reçoit tout public, des jeunes et des adultes. Nous sommes un service public, donc gratuit. Et nous sommes ouverts aussi pendant les vacances. Donc, au CIO travaille évidemment un personnel administratif et des psychologues de l'éducation nationale. Les psychologues de l'éducation nationale interviennent dans les établissements scolaires du secondaire, les collèges et les lycées, et lycées professionnels publics de la Mayenne. Et sinon, nous recevons les élèves, leurs parents ou des adultes au CIO pour des entretiens personnalisés qui durent une heure. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps.
Merci et on reviendra sur les missions du CIO tout au long de cette émission. Fabien, pouvez-vous nous parler de l'association de la Mayenne aux grandes écoles dont vous faites partie ?
Donc oui, l'association de la Mayenne aux grandes écoles est née en 2019 en Mayenne. En fait, c'est une initiative en base qui est née dans le Pays Basque, à savoir qu'aujourd'hui, les territoires ruraux sont sous-représentés dans les filières dites sélectives, donc grandes écoles. Et la Mayenne n'échappe pas à ce cas pour plusieurs raisons. C'est que déjà, au départ, il y a parfois une mésinformation sur les parcours des grandes écoles auxquels on peut accéder. Il y a aussi parfois une peur de l'échec où les étudiants se disent bah « non, je n'ai pas les capacités à accéder à une école de ce type ». Et il y a aussi les finances, puisque aujourd'hui, les filières sélectives sont parfois coûteuses. Et donc, nous, on intervient dans ce sens pour informer les lycéens à travers des événements comme c'était le cas aujourd'hui au sein de la fac de droit. On est aussi en partenariat avec différentes entreprises pour organiser des visites d'entreprise. Mais également, on est en train de mettre en place un dispositif de bourse pour permettre à des étudiants méritants, des lycéens, pardon, méritants, de pouvoir accéder à une école qui nécessite un investissement important au départ.
Merci. Les structures Information Jeunesse sont également des structures ressources en termes d'orientation des jeunes. Peux-tu nous présenter, Laurence, le CIJ et les PIJ qui se trouvent en Mayenne ?
Oui, donc le Centre Information Jeunesse qui est basé à Laval et les autres structures Information Jeunesse qui sont des points Information Jeunesse peuvent effectivement informer les jeunes à la fois sur les études, les métiers et les différentes formations proposées. Nous avons une documentation notamment du CIDJ avec des documents synthétiques qui peuvent être soit consultés sur place, soit renseigner à distance et puis différentes documentations à consulter, que ce soit le CEP et tout ça.
À quel moment est-ce qu'il est opportun de se poser la question de son orientation ? Est-ce que c'est dès le collège qu'on peut se questionner sur ce sujet ? Nadine ou Laurence, est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour rassurer les jeunes.
Bon, moi, je peux prendre la parole. La question, quand est-ce que c'est opportun de... Quand est-ce que c'est opportun de se poser la question de l'orientation? C'est-à-dire, la question de l'orientation, elle vient bousculer parfois les collégiens, qu'ils soient prêts à penser à cette question ou qu'ils ne soient pas prêts à y penser. En troisième, à la fin du collège, il y a une décision à prendre, un choix à faire entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Donc, de toute façon, même s'ils n'ont pas envie de se poser la question, il est opportun de s'en préoccuper en troisième.
Et est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place dès le collège afin d'aider nos jeunes auditeurs à s'orienter? Est-ce qu'il y a des choses dès la sixième ou notamment au cours de l'année de troisième qui est assez stratégique en termes d'orientation?
Oui, actuellement, c'est même inscrit dans la loi, hein. Il y a 36 heures par an doivent être consacrées à l'orientation, alors plutôt en quatrième et en troisième. Et ce temps-là va être plus important encore au lycée.
Et la poursuite d'études après la classe de troisième offre différentes voies et différentes façons d'étudier. Il y a notamment trois filières possibles au lycée, la filière professionnelle, la filière technologique et la filière générale. Comment faire le bon choix parmi ces trois possibilités?
Alors, la question du bon choix, c'est toujours une question difficile. Après, tout dépend de là où en est le jeune par rapport à son projet, d'une part, et à ses envies et capacités de poursuivre des études. Certains jeunes sont en souffrance au collège parce que c'est difficile, parce que ça n'a pas de sens pour eux. Et parfois, du coup, quand ils sont prêts, quand ils ont un projet, ça peut être vraiment très intéressant de penser à une voie professionnelle, alors qu'elle se fasse en lycée professionnel ou par apprentissage. Et le choix de la voie professionnelle va ouvrir sur deux diplômes, le bac professionnel en 3 ans et le CAP en 2 ans. De l'autre côté, on va dire du côté d'études plus longues, donc là c'est la voie générale et technologique qui correspond à des jeunes qui ont encore envie d'être confrontés et pour qui ça a du sens hein, d'accroître leur culture générale. Et ça a du sens pour eux de poursuivre des études encore un peu plus longues, soit bac plus 2 ou bac plus plus. Parfois, leur projet nécessite aussi de faire ces études, soit générales, soit technologiques. Donc, on va dire, à côté de la voie professionnelle, il y a l'entrée dans une seconde générale ou technologique. Et parfois aussi, il existe une seconde spécifique. On verra si c'est intéressant d'en parler ou pas. Ça concerne un peu moins de jeunes.
On peut peut-être en parler brièvement, c'est l'occasion.
Alors, donc à côté de la seconde générale et technologique, il y a ce qu'on appelle une seconde spécifique. Ça veut dire que le jeune, dès la troisième, a un projet très précis, puisque cette seconde spécifique va l'emmener vers un bac technologique, soit dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, soit dans le domaine du théâtre, de la musique et de la danse. Donc voilà, ça ne s'improvise pas. En général, ce sont des jeunes qui sont, pour ce bac-là en tous les cas, déjà dans un conservatoire, par exemple.
Et une fois qu'on a un peu élucidé la question de quelle filière faire au lycée, comment on choisit son lycée?
Pour ce qui est du bac professionnel, pour ce qui est du lycée professionnel, pardon, on choisit son lycée en fonction des bacs professionnels ou des CAP qui sont présents. Et en même temps, on dit aux élèves qu'il faut qu'ils fassent plusieurs vœux, puisque les places en lycée professionnel sont limitées. Hein, le nombre de places est limité dans chaque section. Donc, il est prudent de faire plusieurs vœux au cas où. Alors, parfois, c'est un choix cornélien parce que dans certaines filières, il y a peu de formations. Il peut y avoir une seule formation dans le département ou parfois, il faut sortir du département pour trouver le bac pro qui convient. Donc voilà, ça c'est un moment difficile pour les professeurs, pour les psychologues de l'éducation nationale, quand un élève a un choix très précis, alors qu'on sait que cette filière-là est très, très attractive, donc il n'est pas sûr d'être pris. Je pense par exemple au bac pro métier de la sécurité, qui à Laval ne se fait qu'au lycée Haute-Foliste, où il y a beaucoup de candidats pour peu de places, mais c'est le cas aussi pour d'autres bacs pro en hôtellerie-restauration, etc., ou en boulangerie. C'est très, très demandé.
Donc, pour certaines filières, il faut pouvoir être mobile.
La mobilité est toujours un atout, quel que soit le niveau d'études, mais parfois la mobilité est plus difficile en troisième que plus tard après bac. Mais c'est toujours un atout, bien sûr, la mobilité.
Et justement, on parle depuis tout à l'heure de choisir sa filière, donc ça suppose de bien se connaître pour savoir dans quel domaine on souhaite étudier pour ensuite exercer un métier. Comment on fait pour mieux apprendre à se connaître, pour mieux s'orienter? Est-ce que vous avez des outils au CIO?
Alors, nous avons des outils, nous avons des questionnaires d'intérêt qui peuvent aider. L'entretien est un outil précieux pour nous. Et puis, pour mieux se connaître, c'est une vaste question parce que c'est presque l'affaire de toute une vie. Et évidemment qu'à 15 ans, on n'a pas encore… On se connaît avec qui on est à 15 ans et ça va évoluer et on va changer. On se connaît par rapport à ses expériences. Et plus on a d'expérience dans la vie et mieux on se connaît. On se connaît à travers ses centres d'intérêt, à travers ses passions, à travers ce que les autres nous renvoient, à travers nos relations. Il y a plein, plein, plein d'outils pour se connaître. Mais effectivement, quand on a 15 ans, c'est encore, l'humain est toujours en devenir, donc à 15 ans, il a encore tellement, tellement d'années devant lui. Après, il y a des stages en entreprise qui permettent d'aller connaître des métiers et puis du coup voir si ça peut correspondre à qui on est à ce moment-là. Il y a la possibilité aussi de faire des mini-stages dans les lycées professionnels pour aller voir pendant une demi-journée ou une journée, si la formation pourrait correspondre. La même chose dans les CFA. Donc voilà, il y a des outils comme ça. Maintenant, se connaître, c'est vraiment peut-être la question de l'humain.
C'est vrai que selon le CIDJ, un jeune sur deux considère qu'il est trop jeune quand il a eu à choisir sa filière. Et 76% des jeunes déclarent avoir réfléchi à leur orientation qu'une fois arrivés au lycée. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un besoin d'anticiper, mais quoi qu'il arrive, ça reste jeune, entre 15 et 18 ans, pour s'orienter. Et toi, Laurence, qu'est-ce que tu en penses de... Comment on peut apprendre à mieux se connaître? Qu'est-ce que vous conseillez dans les CIGES et les PIGES?
Oui, il faut y réfléchir très tôt. En même temps, c'est un long cheminement. Et effectivement, les différentes expériences, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient par le biais de stages de découverte, il existe aussi des MOOC hein, pour éventuellement qui sont plus spécifiquement dédiés à l'orientation. Donc, ça peut être une piste éventuellement pour aider des jeunes à éventuellement réfléchir à leur orientation. Mais après, c'est vrai que c'est parfois compliqué de pouvoir bien se connaître et bien s'orienter. Après, le plus compliqué, je pense, c'est quand les jeunes ne sont pas en mesure de pouvoir peut-être avoir les capacités de poursuivre en lycée général technologique et ne savent pas du tout vers quelle voie professionnelle s'orienter. Donc là, je pense que c'est les cas les plus complexes.
Et je conseille aussi, étant du coup référente du point formation jeunesse de Mayenne, je conseille beaucoup aux jeunes de faire des actions bénévoles aussi,
parce qu'il y a donc les stages, notamment en troisième, le stage de découverte. Mais c'est vrai que s'impliquer dans son club ou dans son activité extrascolaire ou s'engager bénévolement dans une cause qui nous tient à cœur ou un événement qu'on aime, déjà, ça permet d'avoir une expérience, même si elle est bénévole, c'est une expérience qui peut faire partie du CV et qui peut apporter déjà des billes de réflexion en faisant connaissance avec certains professionnels, en étant en contact avec un certain public ou en charge de certaines missions dans l'organisation d'un événement. Eh ben, on se rend compte aussi de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de faire dans notre temps libre. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est ça que j'aimerais faire plus tard ? Donc, n'hésitez pas à faire des choses en dehors de l'école aussi pour vous aider à vous orienter.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Est-ce qu'il faut penser au post-bac dès la seconde ? Parce que aujourd'hui, il y a des choix de spécialité à faire en première terminale. Est-ce qu'on doit faire des choix stratégiques en fonction de notre projet post-bac, ou est-ce qu'il faut plutôt aller vers les choses qu'on aime ?
Alors, je reprends la parole. Alors, je dirais que oui, dès la fin de seconde, dès le milieu de la seconde, puisque c'est au deuxième trimestre qu'on commence à interroger les élèves sur leur choix de spécialité en première. Hein, la réforme a apporté donc un choix de spécialité, le choix de trois spécialités à faire en fin de seconde. Et en fin de première, sur ces trois spécialités, ils en garderont deux. Certaines spécialités sont incontournables pour certaines formations. Je pense à vétérinaire. Si on veut être vétérinaire, il vaut mieux avoir suivi la spécialité SVT ou biologie-écologie en lycée agricole, par exemple. Donc, pour certains projets, effectivement, le choix des spécialités va être stratégique.
Mais on a quand même 3 ans pour réfléchir.
En seconde, on n'a qu'une année pour réfléchir. Alors, les 3 ans, en tous les cas, voilà, l'orientation, elle se fait vraiment progressivement. Il y a des élèves qui, en troisième, ont par exemple ce choix de vétérinaire. Et puis, en fonction de leur vécu de seconde ou de leur vécu de première, les choses vont se réajuster. Parce que effectivement, si en seconde, en première, on s'aperçoit que la SVT, ça va pas du tout, finalement, on n'aime pas vraiment ça, peut-être que ça va aider à réorienter le projet pour autre chose. En tous les cas, voilà, le choix de spécialité, il se fait en fonction des projets qu'on peut avoir, en fonction de l'intérêt qu'on porte à la matière et en fonction aussi des résultats, qu'on y obtient.
Il faut aussi pouvoir s'accorder le droit à l'erreur, si je puis dire, puisque aujourd'hui, on ne choisit pas un métier forcément pour toute la vie et qu'on peut changer de métier au cours de sa vie professionnelle. Et voilà, des passerelles existent quand on sent que la voie dans laquelle on s'est engagé n'est pas forcément la bonne. Voilà, il y a des dispositifs de formation continue pour plus tard, mais il y a aussi des possibilités de passer d'une étude à l'autre pour changer de voie progressivement ou plus radicalement.
C'est déjà vrai actuellement, mais ça le sera de plus en plus. Il faut bien que les jeunes aient à l'idée qu'effectivement, ils seront amenés à faire plusieurs métiers, des métiers qui n'existent probablement pas encore aujourd'hui, qui vont être créés dans les années à venir. Et là, effectivement, c'est quelque chose à intégrer. Donc,
Voire avoir une double ou une triple activité.
aussi. Tu as un exemple?
Mon cas.
D'accord. Tu veux en dire plus?
Oui,
Bah,
plus.
alors, enfin, voilà, déjà, clairement, aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans, mais j'ai déjà fait une, deux, trois, quatre entreprises différentes. Donc, L'Oréal, Dior. Donc ça, c'était après les études. Aujourd'hui, je suis chez Hartmann, donc c'est un autre laboratoire. Et aujourd'hui, donc, j'ai une double activité. Je suis salarié, cadre salarié pour un laboratoire pharmaceutique. Donc, je vends en ce moment du gel hydroalcoolique, des masques, des gants, des thermomètres, donc des produits qui sont d'actualité. Et à côté, en fait, je fais partie en fait d'un réseau d'indépendants où j'accompagne des indépendants à développer des réseaux de distribution collaboratifs sur le marché de l'alimentation durable. Donc, l'idée, c'est un peu de diversifier mon parcours et de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et, je pense que l'année qu'on a vécue en 2020, pardon, fait qu'aujourd'hui, il est, je pense, intéressant de se poser des questions sur le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc au cas où il y a une corde qui serait un peu plus distendue.
Oui, ou d'avoir peut-être un travail qui fait plus de sens par rapport à son projet de
Exactement.
vie personnelle, etc. Effectivement, la situation vécue en 2020 a amené beaucoup, beaucoup de gens à s'interroger sur leur parcours et sur leur situation, tout à fait.
Tout à fait.
Et ce type de, pardon, ce type de situation avec plusieurs activités, à donner et se répand de plus en plus et on les appelle maintenant les slasheurs. C'est je suis commercial slash indépendant slash autre chose et ça montre bien que c'est en train d'entrer effectivement dans nos vies, dans nos sociétés et ça correspond sûrement et à un besoin de la société et à un besoin des personnes.
C'est ça. Ça permet d'équilibrer sa vie, en fait, comme vous
Tout à
disiez.
fait.
Voilà.
Après, l'idée pour toi, peut-être, Fabien, c'est de basculer dans cette nouvelle activité si ça fonctionne. J'imagine que derrière, il y a.
C'est ça. Il y a un projet derrière hein, qui aujourd'hui à temps choisi, mais à moyen long terme, l'idée ce serait de ne vivre qu'à temps choisi de cette activité, puisque c'est aujourd'hui, pour moi, celle-ci qui fait sens par rapport à ce que je souhaite faire de ma vie.
Donc, quand on s'oriente, il est aussi important de s'informer sur le marché de l'emploi.
Tout à fait, mais encore une fois, aujourd'hui, ça va tellement vite. Les métiers sont, il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger. Moi-même, enfin, je fais un métier que je ne connaissais pas il y a encore 10-15 ans. Je suis sur un modèle économique qui n'existait pas encore il y a 10-15 ans. Ce n'est pas aussi évident pour un jeune étudiant ou lycéen de toujours être en alerte et de se tenir au fait de ce qui se passe, parce que d'une part, son projet pro n'est pas mûr, voire pas du tout existant. Et puis, le monde va tellement vite que sans cesse, on peut être en train de remettre en cause un peu son parcours en disant « est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça va me plaire ?» Mais comme vous le disiez, en fait, il faut se lancer et en apprenant comme ça, en ayant quelques échecs, on en sort toujours plus fort.
C'est les rencontres qu'on fait dans notre vie professionnelle, personnelle, qui nous font cheminer, évoluer. Notre personnalité bouge constamment. Donc, effectivement, nos envies et nos besoins ne sont pas les mêmes à 30, 40 ans.
Tout à fait.
C'est pourquoi, par rapport à des jeunes, la question des débouchés professionnels et de l'emploi, c'est une chose, mais ça concerne les adultes se posent beaucoup cette question-là. Mais quand on est jeune et qu'on a besoin de s'orienter, moi je crois qu'il faut d'abord privilégier la passion, ce qui va vraiment être motivant, attractif, enthousiasmant. Et là, quels que soient les débouchés, il y aura des voies qui s'ouvriront, peut-être pas celles auxquelles on a pensé, mais ne pas aller vers une filière qui, soi-disant, aurait des débouchés là, maintenant, parce qu'on n'en sait rien dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut partir de soi, pas du monde extérieur. Enfin, voilà, moi, c'est le conseil que je donne très régulièrement.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de la réforme du bac qui a changé il y a peu? Comment le bac est organisé maintenant?
Alors, le bac, donc la réforme du bac, son esprit, c'est de plus en plus de contrôle continu et plus cet examen en juin, en terminale, avec l'esprit un peu bachotage. Donc, c'est vraiment l'esprit qui est dessous, donc une orientation progressive, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin de seconde, le choix de 3 spécialités, avec en première ce qu'on appelle les E3C. Alors évidemment, à force d'utiliser le sigle, j'en oublie. Donc, c'est du contrôle continu sur différentes matières, hein, du tronc commun. Hein, puisque maintenant, je vais parler du bac général. Au niveau du bac général, il y a un tronc commun de matières. Et à côté, donc, avec... en première, du français, des maths, enfin de l'enseignement scientifique. Bah, oui, parce que les maths ont été, pour certains, dit sacrifiés. Un enseignement scientifique, de l'histoire géo, etc. Enfin, les matières, des langues, etc. Et à côté de ce tronc commun, des enseignements de spécialité. Donc, l'esprit du bac, c'est du contrôle continu. À 2 reprises en première, à 2 moments en première, hein, en général autour de février et après en fin d'année. Et puis, la même chose en terminale. Et des épreuves terminales qui sont limitées aux enseignements de spécialité, qui sont… alors, en terminale, il y a les enseignements de spécialité à passer genre au mois de mai. Et puis, en juin, il restera la philosophie et le grand oral. Voilà. Et le bac de français a toujours lieu à la fin de l'année de première.
Ce qui fait une année finalement assez dense, puisque c'est tout au long…
Voilà, c'est tout au long de l'année. Mais voilà, ça évite ce gros rush sur les révisions en fin d'année.
Avec un contrôle continu qui représente 40% de la note finale du bac quand même.
C'est oui.
Une évolution aussi importante du bac.
Et pour beaucoup de terminales, ça y est, Parcoursup a ouvert. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Quel est son calendrier?
Parcoursup est ouvert. Alors, pas encore tout à fait. Pour l'instant, il est ouvert pour consultation. Il va s'ouvrir le 20 janvier. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme qu'on pourrait qualifier de pré-inscription, qui est incontournable. Lorsqu'on veut s'inscrire dans l'enseignement supérieur, lorsqu'on est en terminale, on passe par Parcoursup, sauf exception, on verra lesquelles tout à l'heure. Donc, la plateforme va s'ouvrir pour les pré-inscriptions à partir du 20 janvier. Les élèves de terminale auront jusqu'au 11 mars pour faire connaître les formations qui les intéressent, pour faire des vœux, en fait, jusqu'au 11 mars. Et jusqu'au 8 avril, ils devront finaliser leur dossier. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des vœux, on a aussi un dossier à remplir. Par exemple, on a un dossier de... Ça y est, j'ai oublié le mot. Bref, une lettre de motivation à faire. Et puis, on peut avoir des pièces à joindre aussi. Les écoles, certaines écoles peuvent demander des pièces complémentaires. On peut parler de ses activités extrascolaires. On peut donner des éléments pour mieux se faire connaître auprès des formations qui peuvent nous recruter. C'est aussi à partir de Parcoursup qu'on obtiendra des réponses sur les vœux qu'on a formulés, et les réponses arriveront à partir du 27 mai cette année.
D'accord.
Voilà dans un premier temps ce que je peux en dire. Après, c'est assez complexe, mais on y reviendra peut-être plus tard.
Peut-être juste préciser pour les auditeurs qui nous écoutent que même si... une personne a arrêté les cours et souhaite reprendre des études supérieures ou souhaite se réorienter, il lui faudra aussi passer par Parcoursup. Mmh.
Tout à fait. Ça concerne la première année d'études supérieures, quoi qu'il arrive, que ce soit une première orientation ou une réorientation. Mmh. On va marquer une petite pause musicale et se retrouver juste après pour continuer de parler d'orientation. À tout à l'heure.
Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre. Voir si la lune est claire. De quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier. Un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre.
Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre. Qu'on est temps.
De retour sur l'autre radio pour l'instant jeune, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous allons continuer à en apprendre davantage sur l'orientation. Donc, je suis ce soir avec Laurence du Centre Information Jeunesse de Laval, avec Nadine Gendreau-Berg du CIO de Mayenne et avec Fabien de l'association de la Mayenne aux grandes écoles. Eh bien, Fabien, d'ailleurs, parle-nous de ton association. Comment vous accompagnez les jeunes mayennais qui souhaitent s'orienter vers des filières, je peux dire, élitistes?
Oui, on peut dire sélectives. En tout cas, qui sont à Bac plus 5, on va dire ça comme ça, et qui nécessitent des concours ou des choses comme ça. Ouais. Donc, la base, hein, déjà, c'est l'information. Ça, c'est la priorité des priorités. Pour vous donner des exemples concrets, au mois de décembre, on a eu 4 interventions dans les lycées mayennais. Donc, ça a été à la fois en présentiel et en vidéoconférence. Hein. Et on a intervenu auprès de Lavoisier à Mayenne, auprès de Victor Hugo à Château-Gontier, auprès d'Ambroise Paré et de l'Immaculée Conception à Laval. L'idée, c'est quoi ? C'est de présenter d'une part l'association et son objectif, et à travers les différents membres de l'association, de présenter les différents parcours possibles d'études supérieures aux lycéens qui souhaitent avoir de l'information. L'idée, c'est quoi ? C'est de les rassurer, parce que souvent, on a pas mal de questions par rapport à un parcours d'études supérieures, en termes déjà d'intégration, de concours, de capacité de travail. Donc, on essaie de les rassurer par rapport à ça et de leur dire que c'est tout à fait possible et que les Mayennais ont autant de compétences que les autres lycéens d'autres départements. Et après, on peut faire ces webconférences de l'accompagnement individuel. Hein. Ils peuvent nous contacter directement via le compte Instagram DMGE53, via la page Facebook de la Mayenne de Grandes Écoles, dans laquelle on les orientera vers le membre qui a le parcours qui correspondrait plus à ce que voudrait faire l'étudiant. L'idée, c'est encore une fois de le rassurer. Et après, dans un cadre idéal, on est en train de mettre en place un dispositif de bourse. Comment ça se passe ? C'est 2 x 3 000 euros, donc sur les 2 premières années d'études, pour permettre à un lycéen qui accède à des études supérieures de pouvoir avoir un accompagnement quand derrière, les parents ne peuvent pas l'épauler. La sélection se fait via en fait un jury composé à la fois de membres de l'association, de proviseurs et aussi peut-être de chefs d'entreprise qui, via un dossier, je dirais, complet et un étudiant qui est méritant, on le choisira pour le permettre d'avoir accès à tout ça.
Et donc, vous accompagnez le jeune à construire ce dossier ?
Oui, en fait, il y aura un dossier qui sera préétabli, on l'accompagnera là-dessus et après, il y aura une délibération. On n'a pas encore bien défini s'il y aura un écrit et un oral. On est en train aussi de se renseigner par rapport à ce que fait la fédération au niveau français. Mais l'idée, ça, c'est ça.
Donc là, ce sera une première. Hein. Cette bourse n'a pas encore existé.
Non, c'est pour la rentrée 2021, exactement.
Ouais. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y aura des critères de ressources pour bénéficier de cette bourse ?
Alors, on est en train de mettre en place une convention avec les 32 autres fédérations. Donc oui, il y aura des critères, mais on ne les connaît pas encore, ils ne sont pas encore prédéfinis.
Il y a encore le temps avant septembre 2021.
Ouais, mais il ne faut pas qu'on perde de temps parce que aller chercher des fonds, ça prend toujours du temps.
Oui, j'ai cru lire dans un article que vous aviez un jury ou déjà une petite sélection sur le mois de février.
Oui, on a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. On a notamment, par exemple, un des membres de l'école de l'Estaca qui est prêt à intégrer le jury. Voilà, ça se met en place gentiment. Mais ce sera prêt pour septembre, on va tout faire pour.
Alors, moi, je voudrais une petite précision. Quand on parle de grandes écoles, est-ce que, du coup, c'est, vous avez dit, un engagement dans un cursus long, minimum Bac plus 5. Donc, vous n'orientez pas vers des BTS, des DUT ou des licences, c'est ça ?
Si, on peut. Alors, c'est soit qu'on appelle une classe préparatoire aux grandes écoles, qu'on intègre directement après le bac, sur 2 ans. Ou alors, on peut très bien faire ce qu'on appelle des admissions parallèles, ce qui a été mon cas. Moi, je ne voulais pas faire une prépa, et j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Laval, qui reste relativement général, puisqu'on fait aussi bien de la compta, du marketing, de la communication, des mathématiques, du droit. Moi, je trouvais ça intéressant aussi dans le fait de mûrir mon projet, mais aussi d'être, je dirais, en relation avec des professeurs qui sont aussi sur le terrain, qui ont aussi une activité professionnelle. On peut aussi faire des stages à l'issue de ces DUT. Il y a aussi un travail associatif. Et derrière, à l'issue de ce DUT, j'ai passé des concours pour intégrer en fait une école supérieure de commerce. Donc, il est tout à fait possible de faire un cursus court pour affiner un peu son projet et derrière d'intégrer des grandes écoles.
C'est le message que vous faites passer aussi aux élèves de terminale quand,
oui,
vous les rencontrez ?
Oui. Oui, c'était le cas là. Vous voyez, là, je suis dans la voiture, mais j'étais à la fac de droit. À Laval, on a reçu 180 élèves aujourd'hui, dans lesquels on a présenté nos différents parcours. Donc, il y avait encore des étudiants qui sont en école d'ingénieur, il y avait des diplômés qui ont fait l'école de journalisme, il y avait quelqu'un qui a fait sciences politiques. Enfin, c'est très, très varié.
Et donc, vous accompagnez les jeunes à préparer des concours ?
Comment ? Alors, sur la préparation de concours en tant que tel, non. Après, on peut leur amener notre expérience et leur dire ce qu'il faut prioriser en termes de livres, par exemple, pour travailler un concours. Ça peut être aussi une attitude à avoir les semaines ou les jours qui précèdent pour être relativement serein à l'approche de ces concours. Ça peut être un aspect logistique aussi, puisque des fois, on va avoir plusieurs concours sur une semaine sur le territoire français. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place. L'idée, c'est de leur faciliter le travail, qu'ils soient le plus à l'aise possible le jour de l'échéance.
D'accord, donc c'est plutôt un apport méthodologique.
Ouais.
Et vous apportez donc aussi votre expérience sur la vie étudiante, comment on concilie la charge de travail et la vie sociale.
Oui, c'est ça, en fait, c'est apporter notre témoignage. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les classes préparatoires sont assez exigeantes en termes de travail, hein, puisqu'en général, ils ont 5 jours de cours et je crois que le samedi matin, ils ont des devoirs. Donc, c'est assez exigeant. Il disait tout à l'heure, hein, c'était assez drôle que voilà, la prépa, c'est la période de la vie où ils travaillent le plus et ils n'ont jamais travaillé plus depuis. Ça, c'est assez drôle comme anecdote. Et après, oui, il y a toute la vie associative qui est riche aussi en termes de vie, puisqu'on va rencontrer d'autres profils, on va aussi peut-être rencontrer d'autres nationalités à travers les différents campus. Il y a toute la vie associative de l'école. Enfin, il y a plein de choses qui sont à mettre en place. Et l'idée, c'est aussi de leur ouvrir notre réseau. Ce serait l'idéal. Et on a à terme aussi à vocation, via le site internet, de devenir une plateforme d'échange entre les entreprises et les étudiants pour mettre, je dirais, sur le site les emplois, pour montrer aussi aux étudiants mayennais ou diplômés que la Mayenne est un territoire attractif et qu'ils peuvent très bien faire une première partie de carrière hors de la Mayenne, même à l'étranger, et revenir dans un second temps sur le territoire mayennais, puisqu'on a de très belles entreprises et il est tout à fait possible d'aller une belle carrière et un cadre de vie intéressant comme on peut l'avoir en Mayenne.
La conjoncture actuelle qui complique quand même pas mal les choses, puisqu'il n'y aura pas de forum de l'enseignement supérieur et des métiers à Laval. Beaucoup de portes ouvertes vont vraisemblablement se faire en virtuel et non pas en direct. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui ont des questions par rapport à cette période actuelle, qui vous comparent de leurs difficultés
Alors, on est une association qui est assez peu connue, donc on essaie un maximum de communiquer, donc à travers les journaux, à travers la radio, on essaie de se faire connaître. On est intervenu sur France Bleu Mayenne hier matin et mercredi soir aussi, mais on a de plus en plus de questions et on espère que le bouche à oreille aussi va fonctionner, puisque voilà, l'idée c'est quand même de faire connaître un maximum d'associations pour que derrière les lycéens aient un maximum de réponses à leurs questions pour faire le bon choix d'orientation.
Je reviens un peu à la vie étudiante et la charge de travail, comment on fait pour s'orienter au mieux en ayant conscience aussi de ses capacités à travailler seul ou en groupe comment on prend en compte toutes ces mesures-là, puisque on voit bien qu'il y a une grande différence entre l'université et puis la classe préparatoire, et puis entre les deux, voilà, il y a les écoles, les BTS, les DUT. Comment on fait son choix en fonction de la vie étudiante et la charge de travail qui est là derrière? Je ne sais pas si tu peux apporter ton expérience, même personnelle, Fabien. Ou...
Moi, pour reprendre mon cas, je n'étais pas un gros travailleur, on va dire, au lycée. On va dire que je faisais le minimum. En tout cas, j'avais une vision globale de ce que je voulais, à quoi ressemblait ma vie. Je voulais faire du commerce dans un contexte international. Mais par contre, j'avais pas de plan précis. N'étant pas un gros travailleur, j'ai pas fait la prépa, clairement, parce que je savais que ça allait être compliqué pour moi. Et je me suis orienté vers le DUT. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le DUT, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travail de groupe. Donc ça permet aussi d'avoir un lien avec l'entreprise où de plus en plus, on va travailler sous forme de projet. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. On avait aussi la création d'une association. Donc ça, c'était aussi intéressant de se confronter un peu à la réalité du terrain. Et après, le rythme de travail, c'est un rythme classique, je dirais, un peu comme au lycée, hein. C'est qu'on a des cours toute la journée et on a une partie de travail le soir pour bosser ses cours ou les dossiers qu'on doit mettre en place. Mais c'est plus des projets, c'est pas forcément du court terme, ça va être des projets qu'on va mener sur 1, 2, 3 mois, par exemple. Voilà. Et après, en école de commerce, pareil, c'est beaucoup de travail en groupe. On a aussi des cours généralistes. Là, on n'est plus sur des classes de 20-25, hein, on est plutôt sur des classes de 40-50 personnes. Et on a encore plus ce travail de groupe qui est présent sur des projets pareils de 2-3 mois.
Oui, quand on a du mal à travailler en autonomie, je pense que l'université peut être un milieu assez... compliqué, puisque oui. Là, on passe de 30-35 heures de cours par semaine au lycée, les emplois du temps sont quand même assez denses, à 20-25 heures à la fac. Et donc voilà, cette libération du temps libre peut amener à être très tentant, parce qu'il y a plein de choses à faire quand on est étudiant, surtout quand on passe... d'une petite ville mayonnaise à une grande ville étudiante, c'est très attractif. Mais pour autant, ça nécessite quand même du travail personnel. Donc voilà, quand on a du mal à travailler en autonomie, vaut peut-être mieux s'orienter vers une filière comme un BTS ou un DUT pour être un peu plus cadré ou en tout cas stimulé à travailler, puisque la fac, on est un peu lâché. Dans l'anonymat, au milieu de dizaines de milliers d'étudiants, parce qu'il y a certaines facs qui sont vraiment énormes. Et il ne faut pas compter sur le prof pour vérifier les devoirs le lendemain.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, j'étais juste avant d'échanger avec vous en relation avec deux personnes qui ont fait la fac de droit à Laval. Et justement, elles parlaient du fait de se mettre en capacité individuelle à... se mettre au travail, puisque voilà, il y a moins d'heures de cours. Mais l'intérêt d'une fac de droit comme Laval, c'est que on est entre guillemets en comité restreint, on est plus en proximité avec les professeurs, on ne sera pas forcément un numéro par rapport à d'autres grosses facs de grandes villes où c'est plus compliqué de rentrer en relation avec des professeurs, d'avoir, une proximité avec eux.
Bien sûr, ça n'a rien à voir. Étudier dans une petite fac de droit à Laval ou dans une grosse...
Dans votre association de la Mayenne aux grandes écoles, vous faites aussi la promotion du territoire mayennais aux étudiants mayennais eux-mêmes et peut-être en dehors aussi?
Oui, bien sûr, c'est aussi de montrer aux mayennais qu'on est un très joli département, qu'on est en capacité de mener aussi des études supérieures qui peuvent aller de bac plus 5 jusqu'à beaucoup plus. Mais après aussi de pouvoir revenir en Mayenne puisqu'on a un territoire qui est très vif en termes d'entreprise et qu'on peut accéder à des postes très, très sympas en Mayenne pour, je dirais, aussi redorer notre blason. Et c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en place, et plutôt sur du moyen long terme, mais de générer un vrai lien avec les entreprises mayennaises à travers cette plateforme d'emploi pour qu'elle soit, je dirais, à moyen long terme, référente en disant, voilà, je suis mayennais, je souhaite revenir dans mon département, je pense aller sur le site de la Mayenne de Grandes Écoles parce que je sais que les entreprises mayennaises vont diffuser là-dessus des offres. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est un peu de créer une communauté aussi, un réseau et un échange global, quoi. Donc, un cercle vertueux en quelque sorte. Mmh. Un peu idéal ce que je dis, mais c'est ce qu'on aimerait.
Eh bien, à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui travaillent dans des entreprises mayennaises ou dans des collectivités, voilà, il y a cette association qui rêve de promouvoir le territoire mayennais auprès des jeunes. Donc, si c'est votre souhait, n'hésitez pas à faire partenariat.
C'est ça. Et même s'il y a des parents, des grands-parents qui nous écoutent et qui pensent à leurs enfants, leurs petits-enfants, qui n'hésitent pas à nous contacter directement sur le site internet de la Mayenne Grandes Écoles ou sur la page Facebook, l'Instagram. On essaiera d'être le plus réactif possible.
Je pense aux réseaux sociaux. Laurence, les centres information jeunesse et points information jeunesse sont aussi présents sur les réseaux sociaux et ont leur site internet.
Tout à fait, et on relaie régulièrement des informations, que ce soit sur des portes ouvertes, sur des forums et des salons, même si cette année ils vont être faits différemment. Mais on est un relais d'informations par rapport à toutes ces possibilités.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Simplement, merci de nous avoir donné la parole pour, je dirais, faire connaître cette association et permettre du coup aux étudiants ou futurs étudiants de pouvoir entrer en contact avec différents organismes au sein de la Mayenne pour les accompagner sur la meilleure filière possible qui leur correspondrait.
Et d'ailleurs, je tenais à dire que c'est grâce aux réseaux sociaux, effectivement, qu'on a fait connaissance, nous en tous les cas, au niveau du CIJ de Laval, avec ton association, puisque c'est suite à l'article du Courrier de la Mayenne que vous avez relayé sur les réseaux qu'on a pris contact, et c'était il y a 2-3 jours, donc je tenais à vous féliciter pour votre réactivité.
Merci.
Très bon timing.
On est réactif en Mayenne.
Tout à fait. Après, les gens qui nous écoutent, qui ont des questions, eh bien effectivement, il ne faut pas qu'ils hésitent à se rapprocher soit de la structure information jeunesse la plus proche de leur territoire ou du CIO ou de leur conseiller d'orientation qu'il y a dans leur lycée, puisque de toute façon, hein, dans tous les lycées publics, il y a des permanences ou des conseillers qui sont présents. Et puis, il y a 3 structures, puisque Mayenne, Château-Gontier et Laval ont des structures où ils accueillent des jeunes sur rendez-vous. Donc, effectivement, il faut penser à solliciter tous les professionnels qui sont à disposition.
Et concernant les structures information jeunesse de la Mayenne, vous pouvez retrouver des animateurs informateurs jeunesse à Goron, à Évron, à Mayenne, à Saint-Berthevin, à Laval et à Mellet-du-Maine. Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller au plus près de chez vous ou à nous contacter sur les réseaux sociaux.
Et puis, il y a le site info-jeune.fr, qui est le site information jeunesse Pays de la Loire, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations également à disposition.
Eh bien, merci à vous toutes et tous d'avoir participé à l'émission. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de l'Autre Radio. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée à l'écoute de l'Autre Radio, la radio associative mayonnaise, et à bientôt.
Merci, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.